J'ai les goûts les plus simples du monde, je me contente du meilleur. Cette citation d'Oscar Wilde était sous mon nez, sur la carrosserie d'un camion, pendant le trajet en scooter qui me menait à la radio pour enregistrer cette émission. Et c'est évident que nous sommes ici dans le même registre, le meilleur. Le meilleur des productions journalistiques des radios publiques francophones, le meilleur des reportages, le meilleur de ce qu'est une information de service public. Je rappelle au passage qu'une information de service public est une information au service du public et non au service d'un État ou d'un gouvernement. C'est toujours bon à repréciser. La folie en Afrique, la délicate question du don d'organes, la guerre en Syrie, l'homophobie, les centres culturels chinois politisés au Canada, autant de sujets qui ont demandé une approche pointilleuse et le temps long de l'enquête et d'un reportage qui puisse porter toutes les voix, surtout celles que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Arthur Le Breton, Éric Velmire, bonjour. Le Grand Prix du journalisme des médias francophones publics voit donc 5 reportages en compétition. Que le mot ne fasse pas peur. La RTBF, la RTS, Radio-Canada, RFI et Radio France ont organisé en interne un prix pour désigner le meilleur reportage de l'année. À Radio France, c'est Géraldine Allot de France Inter pour un reportage sur l'homophobie. Dans chaque groupe audiovisuel, le lauréat a été désigné par un jury de professionnels. Vous avez l'honneur d'entendre celui qui a été le président du jury pour Radio France. Mais désormais, tout change. C'est un jury d'auditeurs, sans se soucier des critères de la profession, qui va donc voter. 20 auditeurs de Radio France, 20 de la RTBF, 20 de Radio-Canada, 20 d'RFI, 20 de la RTS, vous avez compris. Dans le jury Radio France, je voudrais saluer Ilona de Saint-Gratien, Patrick à Saint-Jean-de-Verge, Manon à Avignon, ou encore Lisa à Cherbourg, et évidemment tous les autres. Premier décollage pour la Belgique. Oui, je sais. Le trajet Paris-Bruxelles en avion, c'est pas terrible pour le bilan carbone. Et en plus, l'Airbus a à peine le temps de décoller qu'il faut déjà atterrir. Bref, disons que depuis l'aéroport de Zaventem, qui sert alors de transit pour récupérer l'équipage RTBF, le cap est pointé sur le continent africain, plus précisément au Bénin, pour y rencontrer Grégoire Aogbonon, dit Monsieur Grégoire, qui a voué sa vie au service des malades mentaux. Mécanicien de formation, il vient en aide aux schizophrènes, aux bipolaires, aux épileptiques, aux dépressifs, ceux qu'on appelle « fous ». Souvent par commodité, et qu'on ne sait pas soigner, alors on les attache. Grégoire, lui, les détache, et a même créé des centres de réinsertion où ces malades trouvent leur place, à partir d'une valeur cardinale, le travail. Reportage numéro 1, la RTBF, les oubliés des oubliés, par Christophe Bernard et Françoise Valmac pour la première.
La première. La folie fait peur en Afrique, très. Peur. Très, très peur. Malheureusement. Et c'est cette peur qui fait la souffrance et l'abandon de ces malades. On pense qu'ils sont possédés par le diable. On pense que c'est la sorcier, que c'est la sorcellerie. On a tous les mots pour les abandonner.
Il s'appelle Grégoire Aogbonon. Il a 66 ans. Cela fait 25 ans que Monsieur Grégoire consacre sa vie aux malades mentaux, ces oubliés des oubliés, comme il les appelle. Ce matin, nous montons dans sa voiture, une 4x4 fatiguée, avec laquelle il sillonne les rues de Cotonou à la recherche de ces malades mentaux livrés à eux-mêmes.
Vous avez vu dans la ville de Cotonou des malades qui sont nus. Nus. Ils n'ont pas choisi à être nus. Ils n'ont pas choisi. C'est la maladie. Vous vous promenez dans les rues d'Afrique, vous allez les voir partout. Mais tout le monde passe à côté sans les voir. Moi aussi, c'était pareil.
Il y a 20 ans, Grégoire a appris l'existence de malades enchaînés dans des villages reculés. C'est comme cela qu'il a fait la connaissance de Julien. Il nous montre sur son téléphone les images de cette rencontre. Une équipe de télévision le suivait ce jour-là.
Alors, comment tu vas, mon frère ?
Ça va bien.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Julien.
Moi, je m'appelle Grégoire.
Julien porte des fers aux pieds. Il est enchaîné dans une case. Il est totalement nu.
Ça fait combien d'années que tu portes cette chaîne ?
Ça, là. Ouais. Je ne sais pas.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Mon dicket, je suis un fou. Je suis simulé.
Alors, moi, je suis venu pour te chercher.
Pour me chercher ?
Tu es content ?
Oui, je suis content.
Parce que je vais m'occuper de toi, tu vas t'occuper de moi.
Ah, d'accord.
D'accord ?
Oui.
Voilà.
Grégoire cisaille les fers de Julien et l'emmène au centre de Boaké. Le combat de Grégoire pour réhabiliter ces êtres humains, considérés comme des rebuts par la société, trouve son origine dans sa propre histoire. Il y a 25 ans, à l'époque, Grégoire est un jeune père de famille. Il est mécanicien et gagne très bien sa vie.
Je gagnais beaucoup d'argent. Je gagnais tellement l'argent à 23 ans. J'étais l'un des jeunes rats qui avait déjà une voiture personnelle. J'avais jusqu'à 4 taxis. Mais face à la fortune, j'ai abandonné Dieu, j'ai abandonné l'église. J'ai commencé à mener ma vie comme tout le monde. Mais ça n'a pas duré. Je ne saurais jamais comment expliquer. Les véhicules ont commencé à faire des accidents. Au bout de 3 mois, j'ai tout perdu. Ah non, ça, j'ai failli me suicider. Hein. J'ai failli me suicider. J'ai failli moins un. Quand j'avais l'argent, j'avais beaucoup d'amis. Mais quand j'ai tout perdu, tout le monde est parti. Il restait seulement que mon épouse et les 2 enfants que j'avais à l'époque. Ah, ça a été pour moi le moment le plus tragique, terrible que j'ai vécu.
Grégoire tombe dans une grave dépression. Grâce à l'aide d'un prêtre, il décide de changer de vie et cherche un nouveau sens à son existence.
Et puis, en 90, je passais dans la rue. Je vois un malade mental tout nu qui fouillait la poubelle. J'ai commencé par le regarder. Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. Mais c'est lui, Jésus, qui souffre en personne à travers ces malades. Du coup, je me suis dit, mais ils font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? C'est à partir de ce jour, je vais commencer par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et après, j'ai commencé par les rencontrer. Et en les rencontrant, je vais commencer par découvrir que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être aimés comme tout le monde.
Grégoire fonde l'association 5 Amis, voilà. Ouvre un premier centre de santé pour recueillir les malades mentaux qui errent dans les rues des grandes villes.
En 1994, on a inauguré le premier centre. On va commencer à recueillir tous les malades qui étaient dans la rue. Au vu des résultats qu'on continue à voir, les familles dans les villages, les prêtres vont commencer à nous faire appel. Et c'est partant de là. Moi, je n'avais jamais appris que des malades étaient enchaînés. Je n'avais jamais appris qu'on les mettait dans le bois. Oh là là, on les enchaîne, on les bloque dans le bois.
C'est là que Grégoire découvre une terrible réalité. En Afrique de l'Ouest, les malades sont considérés comme ensorcelés, possédés par le mal, ils font peur, les familles ne savent pas quoi en faire, alors on les cache, on les enchaîne, on les bloque dans des troncs d'arbres, parfois pendant des années. Sur son téléphone, il nous montre les images terribles d'un jeune homme entravé, pourri, dévoré par les vers. Il s'appelle Kiku.
Vous voyez, les 2 pieds, vous allez voir, les 2 bras attachés avec fil de fer, mais totalement couché comme ça sur son dos, mais totalement pourri avec des asticots partout. Vous voyez les fils de fer là, tout est rentré dans la chair. On ne pouvait pas du tout couper. Et on a eu du mal pour couper, surtout les pieds, mais totalement pourri. Je n'avais jamais vu ça. C'était l'une des premières images que j'ai vues.
Le jeune homme sera finalement délivré. Grégoire l'emmène à l'hôpital. Kiku est lavé, soigné, placé sur des draps propres. À bout de force, Kiku mourra quelques jours plus tard, mais dans la dignité. En 25 ans, avec l'indéfectible soutien de sa femme, Léontine, Grégoire crée plusieurs centres d'accueil et de soins en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et récemment au Burkina Faso. À ce jour, plus de 20 000 personnes ont bénéficié de soins et sont retournées dans leur famille.
Votre téléphone, il sonne tout le temps, il est allumé jour et nuit. Pourquoi ? Et c'est quoi votre moteur ?
Ah oui, c'est pour moi, c'est toujours, à tout moment, les patients, la famille m'appellent. Ma joie, si une petite parole peut les calmer, une petite parole peut les apaiser, je n'ai pas le droit de couper mon téléphone.
Vous laissez allumer la nuit aussi ?
24 heures sur 24 heures.
Les patients hospitalisés font la cuisine, le ménage. Certains sont devenus infirmiers et font désormais partie du personnel soignant. Car un des credos de Grégoire, c'est de responsabiliser les malades, les faire travailler, leur apprendre un métier pour les réinsérer.
Bien sûr, ils sont capables de faire tout comme tout le monde. Ils sont capables. Ils sont capables de faire tout sortes de travail. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance.
La chose qui fait peur, c'est les crises de décompensation. Il n'y a jamais de crise ici, dans le centre.
Lorsqu'un patient suit bien son traitement, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas travailler.
Mais lorsque la personne arrête, abandonne le traitement, c'est normal. Si elle abandonne son traitement, c'est normal que la maladie revienne. C'est pareil que diabète. Un diabétique prend son traitement. On n'exclut pas les diabétiques du monde du travail. Il faut qu'on apprenne à les aimer. Parce que notre peur envers eux, c'est ça qui devient leur grande souffrance. La peur qu'on a envers eux, c'est ça qui est leur grande souffrance.
Usiku inafika, mtoto mami na pashulale, duniani maneno, mtoto mami na pashulale,
mtoto wa mama, usiku inakuya.
Incroyable, monsieur Grégoire. Un parcours de vie et un exemple dans une Afrique qu'on dit souvent livrée à elle-même, surtout sur le plan sanitaire. Un reportage de Françoise Valmac pour la RTBF. Françoise qui a rencontré Grégoire presque par hasard.
J'allais pour un reportage sur les mangroves et puis je suis tombée sur ce personnage assez extraordinaire, monsieur Grégoire, qui s'occupe donc des malades mentaux qui, en Afrique de l'Ouest, sont considérés comme souvent possédés par des démons, par des mauvais esprits. Et donc on les enchaîne, on les attache, parfois on les met dans des cages. Et donc ce monsieur Grégoire, depuis 40 ans, inlassablement, va à leur secours, les détache et les accueille dans des centres d'internement humains. Il y a quelques hôpitaux psychiatriques, je crois qu'il y en a un seul à Cotonou, il y a 12 psychiatres pour tout le Bénin, donc c'est très très peu. Mais pour les gens qui vivent dans les villages très reculés, et qui n'ont pas beaucoup d'argent, et qui n'ont pas beaucoup de culture, d'information, eh bien il est difficile de concevoir que le malade mental peut être traité par des médicaments. D'abord, ils n'ont pas accès aux médicaments, c'est souvent trop cher, ou il n'y a pas de pharmacie. Donc la solution pour ces familles démunies, eh bien c'est de faire appel à des guérisseurs traditionnels, ou alors simplement d'attacher leur parents avec des chaînes pour le contenir en fait.
RTS La Première, la matinale.
Et nous voilà en Suisse. Ils sont à la traîne. Laissez-moi finir la phrase avant de tirer des généralités caricaturales. La Suisse est à la traîne en matière de don d'organes. En théorie, 4 personnes sur 5 sont favorables. Mais en pratique, quand vient l'heure de la mort, une personne sur 20 porte sur elle la carte de donneur. Le débat est relancé en Suisse par une statistique. 68 personnes sont mortes en 2018, faute d'avoir reçu à temps l'organe qui aurait pu les sauver. Un registre numérique a été créé l'an dernier et des initiatives populaires veulent instituer une règle. Toute personne n'ayant pas explicitement déclaré de son vivant s'opposer au prélèvement de ses organes, sera donneur. Reportage numéro 2, la RTS, Zoé Decker et Francesca Arrigrofo ont rencontré les protagonistes de ces histoires où la mort des uns prolonge la vie des autres.
Il y a comme un bruit de pompe, c'est normal?
C'est peut-être ma turbine.
Non.
C'est possible.
On l'entend ?
Ouais. On entend la turbine qui a été implantée dans mon cœur pour assurer un flux sanguin qui maintient mes organes et mon corps en forme dans l'optique d'une greffe. Je m'appelle Sébastien Delapierre, j'ai 40 ans. Je suis en attente d'une greffe cardiaque depuis maintenant 2 ans. C'était assez brutal. J'avais comme des crises d'asthme. C'était au printemps en plus. Donc on est parti sur un rhume des foins. Et en investiguant un petit peu, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus grave. J'ai été voir un cardiologue qui m'a diagnostiqué une insuffisance cardiaque avec une dilatation sévère du ventricule gauche du cœur. Cette turbine implique une batterie externe avec un câble qui passe par le ventre. Donc je vais 3 fois par semaine chez mon médecin de proximité qui est d'accord de me changer mon pansement. Donc je dois prendre des diurétiques, il y a du Sintron évidemment.
Vous sortez tous les médicaments que vous devez prendre. Hein.
Voilà exactement, donc je présente une bonne dizaine de pilules que je dois ingurgiter par jour.
Aujourd'hui donc vous êtes sur liste d'attente. Qu'est-ce que ça fait d'attendre le cœur de quelqu'un d'autre ?
Alors, moi, je suis donneur depuis l'âge de 18 ans. C'est une démarche que j'ai faite très jeune. Autant donner un sens à ce décès en pouvant sauver la vie de quelqu'un. Donc, à partir de là, c'est une acceptation que j'avais déjà faite. Donc, cette attente, finalement, est longue, difficile, usante. Mais avec quand même cette espèce d'espoir au bout, à la clé.
Donc tous les matins, vous vous réveillez avec l'espoir que le téléphone sonnera ?
C'est en permanence. C'est à chaque fois que le téléphone sonne et qu'on ne reconnaît pas le numéro affiché, on a toujours un petit espoir que ce soit enfin le moment, mais c'est un peu paradoxal en fait. C'est-à-dire que moi, pour survivre, je dois profiter du décès de quelqu'un, ce qui n'est pas quelque chose de très réjouissant, c'est sûr.
En Suisse, l'année dernière, ils étaient près de 1500, comme Sébastien Delapierre, en attente d'une greffe.
Parmi eux, 78 sont décédés avant d'avoir eu la chance de recevoir l'appel tant espéré.
Pourtant, depuis une dizaine d'années, la Suisse compte 5 réseaux de dons d'organes, dont un en Suisse romande et au Tessin.
Chaque hôpital universitaire et régional dispose de coordinateurs de dons. Nous sommes au CHUV, à Lausanne.
Ici, c'est Yves Raymond qui s'en occupe, mais pas seulement.
On a une équipe de 5 personnes, avec une référente plutôt pédiatrie, un référent urgence, une référente pour le don de cornée avec l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne.
Face aux chiffres catastrophiques du don d'organes en Suisse, Suisse Transplant a décidé de lancer il y a quelques années une formation certifiée.
On a effectivement des cours et des modules spécifiques liés à la communication. On est soutenu par une psychologue ou un psychologue. Cette personne-là va nous aider à comprendre tous les filtres de perception, les aspects du non-verbal, du verbal. Donc on est coaché. C'est un standard de Suisse Transplant pour vraiment qu'on puisse avoir cette expertise liée aux dons d'organes.
J'aimerais juste un œil sur cette situation-là.
L'une de ses missions est d'identifier les donneurs potentiels.
Donc on peut voir que c'est une entrée de cette nuit. Des fois, on a malheureusement des surprises et on est obligé de regarder ça. Oui, Yves, coordinateur du don. J'ai repris la situation de monsieur... D'accord, donc... Et si atteint cérébral, bah, tu me tiens au courant et puis moi je suis à disposition.
La question du don d'organes intervient dans des cas très précis lorsque le patient est en état de mort cérébrale ou que son cœur s'est arrêté sans chance de survie.
L'annonce de la mauvaise nouvelle ou du passage en mort cérébrale revient toujours au médecin en charge de la situation. Des fois c'est des familles qui sont présentes en soins intensifs pendant plusieurs jours, même des fois semaines. Et puis le médecin va poser la question par rapport au don d'organes et en fonction de la décision de la famille. On est prêt, on est en habit d'infirmier, on est en blanc, on n'est pas en civil. On vient leur expliquer le début de la prise en charge. Le lien que l'on tisse avec eux est très important. C'est des familles très très généreuses. Et ça, c'est très touchant.
La Suisse connaît actuellement le système du consentement explicite. Il revient donc à chacun de se déterminer avant sa mort. Si aucune décision n'est prise, c'est en dernier ressort la famille qui choisit.
Ce que l'on sait le plus souvent, c'est que les familles, dans le doute, ne connaissant pas la volonté du défunt, ils préfèrent refuser. Il y a un taux de refus de 60% sur les démarches que l'on fait, 45% je crois au CHUV. Donc à nous, les coordinateurs du don, d'essayer de sensibiliser au maximum la population par des manifestations.
Devoir prendre la décision très vite de donner ou non des parties du corps d'un proche, c'est une douleur supplémentaire pour beaucoup de familles. C'est pourtant le geste qu'ont fait Karine et sa famille.
J'ai perdu mon fils il y a 4 ans dans un accident de montagne. Et suite à ça, j'étais confrontée à la question sur le don d'organes.
Nous la rencontrons devant les locaux de son association à Sierre. Une association qu'elle a appelée Étoile de Gaël, du nom de son fils décédé.
Il a été héliporté au CHUV et de là, ils ont fait plein de tests, plein d'examens. Et le lendemain, on nous a annoncé que, en fait, le traumatisme crânien était trop important, qu'il était en mort cérébrale, que c'était fini, quoi. Et là, moi, j'arrivais pas à y croire. Sur le moment, moi, j'ai dit non. Avant tout ça, je n'avais jamais entendu parler de ce mot mort cérébrale. Et en fait, on a l'impression qu'il va se réveiller. Et puis, en fait, non, c'est les machines qui le gardent en vie, quoi.
On vous a donc annoncé la mort cérébrale. Tout de suite après, on va vous parler du don d'organes, enfin. Comment ça se passe justement ?
La notion du temps, j'ai pas trop. Moi, j'avais l'impression que c'était très rapide. Donc, ils vous parlent de loi, ils vous parlent de. C'était très froid quand même au début, la demande, mais ils n'ont pas le choix, donc c'est comme ça. Et là, on a demandé 3 jours. Et par chance, les soins intensifs du CHUV ont accepté. Et c'était important d'avoir le temps. Ouais. Et là, la décision de toute la famille était claire. on va de l'avant et on est OK de donner les organes, quoi. Gaël était quelqu'un comme ça de très généreux. Ouais, c'est ce qu'il aurait aimé, quoi. On a, je pense, ma famille et moi-même, aucun regret sur ce qu'on a pris comme décision, quoi. Gaël a pu aider 4 personnes sûres. Alors, sincèrement, pendant 10 secondes, vous êtes heureux. Puis après, vous êtes de nouveau face à votre réalité et à votre vie, quoi. Mais au moins, ces familles ne vivent pas ce qu'on vit. Ils peuvent continuer à vivre. Et c'est ça qui est beau.
Quel témoignage, l'altruisme dans les propos de Karine, la mère de Gaël. Zoé Decker pour la RTS tenait à ce sujet sur le don d'organes. C'est un fait de société qui anime le débat politique depuis des années, sans que rien ne soit vraiment tranché en Suisse.
C'est un vrai serpent de mer ici en Suisse aussi, cette question du don d'organes, on n'en a jamais assez. Et puis la Suisse est vraiment en queue de peloton en Europe en question en ce qui concerne le don d'organes. Alors c'était intéressant de se repencher sur cette question, notamment parce que c'est un sujet qui était d'actualité l'année dernière lorsqu'on a voulu tourner ce reportage, puisque pour la première fois en Suisse, on a lancé un registre national de don d'organes qui n'existait pas du tout avant. On avait une pauvre petite carte en carton qu'il fallait renouveler chaque année, plastifiée, et qu'il fallait avoir sur soi le jour de son décès. Alors là, un registre a été lancé par une fondation, ça n'a pas été fait par l'État. Et puis, ce qui est très difficile, c'est que bien souvent, la majorité de ces donneurs potentiels, ce sont des jeunes, voire des enfants, des jeunes adolescents. Et c'est très compliqué pour les proches, pour la famille, de prendre une décision lors du décès, de la mort de ces personnes, de ces jeunes. Et c'est bien d'en parler avant, et c'est ce qui ressort de ce reportage aussi, et du témoignage de Karine Blanc qu'on entend à la fin, qui a donné les organes donc de son fils qui avait 6 ans, qui est décédé d'un accident de montagne. Et d'en avoir parlé avant, en famille, ça facilite le choix. C'est des choix qui sont extrêmement difficiles sur le moment à prendre.
La Syrie. En mars 2019, la fin de Daesh proclamée par les Occidentaux. Les forces kurdes soutenues par la coalition internationale mènent une dernière bataille contre le groupe État islamique. Les djihadistes se sont réfugiés dans l'enclave de Barouz à l'est de la Syrie. Acculés par les bombardements, chaque jour des centaines d'entre eux sortent du village pour se rendre. Reportage numéro 3, RFI. Sami Bourelifa voyage au bout du califat. Le reporter de Radio France Internationale a pu pénétrer dans l'enceinte du village de Barouz quelques jours avant qu'il ne tombe.
Il est minuit à Barouz. Le village est plongé dans l'obscurité. Les tirs, les frappes déchirent la nuit noire. Nous sommes sur une position avancée des FDS. L'unité du commandant Rostom Hasake est postée sur la terrasse d'une maison. 100 mètres nous séparent des lignes ennemies.
Adol.
Ce que vous entendez, ce sont les tirs des djihadistes, mais nous allons riposter à l'aide de balles traçantes. L'aviation pourra ainsi avoir une indication de la position terroriste. Nous les poussons à se regrouper pour que la frappe en élimine le maximum d'un seul coup.
La radio de Rostom Hasake crépite. Sur sa tablette, le jeune commandant transmet des coordonnées GPS aux forces de la coalition internationale. Une localisation précise de l'emplacement des djihadistes. Dans le ciel de Barouz, le bombardier C-130 de l'armée américaine ouvre le feu.
Un grand merci à l'oncle Trump. Les Américains nous aident énormément. Ce sont eux qui nous protègent des attaques à la voiture piégée. Leur couverture aérienne nous permet de progresser sur le terrain.
Une progression difficile, surtout de nuit. Les FDS avancent dans le noir total. Interdiction absolue d'allumer une lampe torche ou un téléphone. Les tireurs embusqués de l'EI sont à l'affût. Les combats se poursuivent toute la nuit. Le lendemain matin, nous nous enfonçons davantage dans les rues de Barouz. « Courez dans mes pas », ordonne le commandant kurde Mostafa Bali. Principal danger dans le village, les mines antipersonnelles. Nous passons de maison en maison et très vite se dresse devant nous le dernier carré djihadiste, une sorte de campement sur les rives de l'Euphrate.
« On ne peut pas aller plus loin. On n'a pas d'hommes au-delà de cette position. Daesh est juste en face de nous, on aperçoit leur drapeau. »
Autour de nous, le sol de Barouz est comme labouré. Stigmates, des combats et des frappes aériennes. Partout, des munitions abandonnées par les djihadistes. Il y a aussi des tentes en lambeaux, des matelas et plein de vêtements sales.
Vous voyez toutes ces tranchées autour de nous, c'est là où les djihadistes entassaient les civils qui leur servaient de boucliers humains. Heureusement, nous avons réussi à évacuer ces pauvres gens.
Parmi les civils évacués, il y a aussi des enfants et des épouses de djihadistes. En quittant Barouz, ils sont dirigés vers un point de rassemblement quelques kilomètres plus au nord, au milieu du désert. Encadrés par l'armée américaine, des milliers de silhouettes noires, des femmes en niqab poussiéreux. Une jeune Française, membre du groupe État islamique, est assise à même le sol. Autour d'elle, ses trois enfants et ses deux béquilles. Elle a reçu une balle à la jambe gauche durant les combats.
Les deux derniers jours, c'était non-stop, des bombardements, des tirs. Ça ne s'est pas arrêté en fait, c'est des corps partout. Et voilà, et moi je me suis pris la balle en marchant dans la rue.
Blessée, elle a finalement renoncé au califat, mais pas à son idéologie. La jeune femme justifie les exactions du groupe État islamique.
C'est comme ça, tout pays massacre une population dans une certaine guerre, c'est comme ça. Mais on vit dans ce pays et c'est tout.
Originaire du sud de la France, la trentenaire refuse catégoriquement d'être rapatriée.
On est venu, on va repartir. Pourquoi ? Pour séparer. On est venu, on est là, on est en famille, je repars et après quoi ? Je vais en prison, mes enfants ils sont séparés de moi, ils ne voient plus leur père. Vous voyez, on sait que si on part, on est en prison.
Son mari djihadiste est toujours à Barouz. Ce couple de Français convertis est arrivé en Syrie en 2014. Selon les forces démocratiques syriennes, la bataille pourrait durer encore plusieurs jours pour déloger les derniers combattants les plus fanatiques du califat autoproclamé.
Très peu de reporters ont pu rentrer dans le village de Barouz, notamment pour des raisons de sécurité. La plupart des journalistes occidentaux étaient tenus à l'écart à l'entrée de l'enclave. Sami Bourelifa de RFI est entré dans un village que personne ne savait situer sur une carte.
Le village de Barouz, il faut le chercher sur une carte pour le trouver. Si ce n'était cette actualité un peu macabre, personne n'aurait jamais entendu parler de ce village. Eh bien, en fait, c'est là que les djihadistes du groupe État islamique ont choisi de se replier au gré des batailles. Ils se sont repliés vers ce dernier village avec un terrain qui était complètement décousu. En fait, la plupart des positions des uns et des autres, c'était des positions en mosaïque, c'est-à-dire qu'il n'y a il n'y avait pas de ligne de front complètement définie avec les ennemis d'un côté et les forces démocratiques syriennes de l'autre. Le danger était partout, avec des djihadistes devant nous, mais aussi dans notre dos. Et donc, c'est aussi ça la complexité de ce terrain dans l'est de la Syrie. Les djihadistes ont certes été battus, en tout cas pour ce qui concerne l'aspect territorial qu'ils contrôlaient, mais le groupe État islamique continue d'exister à travers des cellules dormantes. Et au mois d'octobre, avec l'offensive qui a été menée par la Turquie contre les forces démocratiques syriennes, il y a eu le risque de voir ces djihadistes qui étaient dans les geôles en fait s'évanouir dans la nature. Et c'est pour ça que la situation reste très dangereuse dans cette partie du pays.
France Inter, première radio de France.
Voilà, ça c'est dit. France Inter, première radio de France, ok. Et France Inter, ce n'est pas que Paris. La preuve avec ce reportage en Haute-Loire qui a enlevé le prix Radio France en 2019. En France, les actes homophobes ont progressé de 15%. Chiffre préoccupant, le gouvernement a lancé une campagne de prévention au milieu scolaire, mais il existe aussi des initiatives locales. Un éducateur homosexuel a rencontré des jeunes de quartier à Yssingeaux, en Haute-Loire. Reportage numéro 4, Radio France, la sale parole libérée par Arthur Gerbeau et Géraldine Allot de France Inter.
Bonjour.
Vous êtes Brahim ?
Oui, Brahim Naïdbalk, homosexuel, j'ai 55 ans.
Il a le corps fin et sec et le verbe prolixe, comme s'il tentait de rattraper toutes ces années perdues à se dissimuler. Brahim Naïdbalk a fait son coming out il y a 10 ans seulement. Il était éducateur sportif à Aulnay-sous-Bois, pas franchement le genre d'endroit où c'était facile, dit-il.
Je suis aujourd'hui à Yssingeaux pour faire de la prévention auprès d'un groupe de jeunes.
Bienvenue à la mission locale d'Yssingeaux. On vous accueille avec plaisir. Et puis donc les jeunes attendent Brahim pour son intervention, qu'ils attendent avec impatience.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis venu ici pour parler un peu de mon histoire, un peu parler de ma vie.
la difficulté d'être homo dans la culture maghrébine, la difficulté d'être homo dans la cité. Parce qu'à l'époque,
Brahim Naït Balk parle pendant plus d'une heure et demie devant une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans en recherche d'emploi.
Tout de suite, je me sentais différent des autres. J'avais une sensibilité pour les garçons plutôt que pour les filles. Je me considérais comme quelqu'un de pas normal du tout.
Les insultes, les agressions sexuelles, le sentiment de honte et de rejet, Brahim raconte tout et termine son intervention très ému.
C'est fou le temps que j'ai perdu parce que je me dis, j'aurais pu le dire avant que j'étais homo et j'aurais pu finalement avoir une meilleure vie que celle que j'ai eue jusqu'à maintenant en fait. C'est ça qui est terrible. De mon époque, c'était pas possible en fait. Mais c'est comme ça quoi. Ouais. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté.
Moi, je voudrais remercier Brahim. Son discours est fort, hein. Il est violent, il est fort, mais je crois qu'il est nécessaire aussi. Et moi, d'abord, je voudrais juste me poser une question. Qui ça embête de voir deux hommes s'embrasser? Et soyez honnête. Hein.
Moi, je trouve ça dégueulasse. Après, c'est comme moi, je vois les choses.
Non, mais t'as le droit de...
Tu as le droit,
vous avez le droit d'avoir votre vision. Mais pourquoi c'est dégueulasse?
Je sais pas. Un jour, j'étais à l'hôpital, j'étais avec mon père.
Ouais.
Et j'ai vu deux gays s'embrasser.
Ouais.
Ça me dégoûtait.
Mais les gens, quand ils s'embrassent, c'est aussi de l'amour.
Ouais. Si demain vous aviez un enfant homosexuel, comment vous réagirez?
Je le tège.
Moi? Comment?
Je le tège.
Tu le tèges?
Tège, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Je le balance.
Vous le balancez?
Ouais,
mais il dit ça, mais il a...
Et c'est avec une patience infinie que l'éducateur cherche à déconstruire ses préjugés.
Vous avez été courageux quand même, hein?
À la sortie, les jeunes sont admiratifs.
Il a beaucoup de courage, parce que j'ai... un ami qui a vécu ça et qui est plus là, justement. Donc franchement, ouais, je trouve qu'il a vraiment du courage et qu'il faut qu'il continue comme ça.
Votre ami, pourquoi il est plus là?
Il s'est suicidé. Il s'est fait rejeter par toute sa famille et du coup, il n'avait plus personne. Du coup, voilà.
Donc, j'imagine que ce témoignage de Brahim fait d'autant plus écho chez vous.
Oui. Les gens, ils comprennent que c'est pas qu'ils sont différents, c'est chacun vit comme il est et qu'il faut l'accepter, c'est tout.
Je suis Abdelkader Elan, directeur de la mission locale. C'est simple, hein, vous allez à Lyon, vous allez voir des homosexuels. Ici, vous n'allez pas en voir beaucoup. Et souvent, les jeunes me disent, mais on n'a pas l'habitude aussi. C'est-à-dire que quand je leur montre une image de deux hommes qui s'embrassent, j'entends des bas, c'est écœurant, c'est dégoûtant. Je le dis souvent, je suis un ancien homophobe. Et parce que j'ai grandi dans un quartier populaire et où c'était, j'ai envie de dire, la norme. Et aujourd'hui, je me sens une responsabilité de donner, en tout cas, aux jeunes qu'on accompagne, des outils, des armes, le moyen, en tout cas, de résister à ce qu'il y a de plus mauvais dans notre société, à savoir le rejet de l'autre, le rejet de celui qui ne nous ressemble pas.
En partant, Brahim Naït Balk donne un dernier conseil aux jeunes. Ne faites pas comme moi, vivez comme vous êtes. On ne peut pas revivre une jeunesse qu'on n'a pas vécue.
À côté de la sale parole libérée, celle qui porte un message, celle qui exprime aussi une douleur. Ces dernières, on parle des victimes, ne s'expriment pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Géraldine Allot, Radio France.
Les lesbiennes que j'ai rencontrées pour ce reportage, elles ont été rouées de coups, ça a été physiquement, elles en gardent des séquelles. Et que témoigner, c'était se replonger dans tout ça. Et beaucoup m'ont dit, je vais avoir besoin de temps pour digérer, comme en fait un stress post-traumatique. Quoi. Je vais avoir besoin de temps pour digérer avant de témoigner. Et finalement, celles qui ont témoigné, ce sont celles qui ont été agressées il y a quelques mois déjà, qui ont porté plainte, pour qui il y a un processus judiciaire qui est en cours. Et donc, du coup, elles arrivent à mettre des mots sur leur agression.
Ce qui frappe dans votre reportage, c'est aussi la parole homophobe qui s'ignore.
Oui, ça c'est vraiment, ça m'a vraiment interpellée. On était avec Arthur Gerbeau, donc notre technicien, à Issingeaux en Haute-Loire, où un ancien éducateur de banlieue parisienne. Et à un moment donné, dans l'échange, il y a un jeune qui prend la parole et qui dit « Ah ben moi, si j'ai un fils homosexuel, je le tège. » Voilà, c'était la première fois que j'entendais ce genre de discours. Il savait qu'il y avait un micro en plus, donc vraiment dit complètement librement. Et la force de Brahim Naït Balk, donc l'intervenant, c'est de, au lieu de le juger ou de lui dire c'est pas bien ce que tu penses, il lui a demandé mais pourquoi tu penses ça, est-ce que tu penses pas que finalement deux personnes qui s'aiment c'est de l'amour, que ça soit un homme et une femme ou deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble. Et finalement ce jeune là il est resté jusqu'à la fin de l'intervention, il est allé voir Brahim Naït Balk qui lui a dit « Oh, vous êtes venu de Paris exprès pour nous parler », comme s'il était touché. Donc malgré tout, il avait un discours très homophobe et en même temps, je pense que Brahim Naït Balk a réussi à le titiller un petit peu et je ne dis pas qu'il va changer forcément, mais à faire passer un message. Et ça, c'était très beau.
Transatlantique. Je ne sais pas prendre l'accent québécois. Donc, je ne le tente pas et tant mieux, car ce respect pointilleux de l'accent, qui serait alors massacré, pourrait provoquer un accident diplomatique. La diplomatie, on en est loin dans l'enquête vertigineuse de Franck Desoer pour Radio-Canada. Le gouvernement chinois n'hésite pas à intervenir dans des campus universitaires étrangers, un peu partout dans le monde, afin de défendre son image et ses positions politiques. Instrument privilégié de cette stratégie d'influence, les instituts Confucius, qui s'apparentent a priori aux alliances françaises et aux instituts Goethe allemands, mais qui dans les faits sont beaucoup plus que de simples écoles de langue. Reportage numéro 5, l'enquête de Franck Desoer pour Radio-Canada.
I've come to a prestigious university and democratically got elected as the president.
Je suis étudiante dans une université prestigieuse et j'y ai été élue démocratiquement comme présidente d'association. Je crois qu'il est ridicule qu'on puisse venir ici s'interposer et exiger ma démission. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'une autorité étrangère abuse ainsi de son pouvoir et tente de contrôler, chez moi, mes concitoyens.
And I hope the Canadians will, you know, stand up against this.
Chemi Lamo ne peut cacher sa révolte. Cette jeune Canadienne d'origine tibétaine a été élue en février dernier à la tête de l'association étudiante du campus de Scarborough de l'Université de Toronto. Des étudiants d'origine chinoise ont alors mené une campagne très agressive contre elle, allant même jusqu'à présenter une pétition de 10 000 signatures exigeant sa démission.
Avant l'annonce de ma victoire, j'ai commencé à recevoir des milliers de commentaires, parfois très violents sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre eux étaient relatifs à mes origines tibétaines. C'est là que j'ai réalisé que ça ne pouvait pas venir uniquement des autres étudiants du campus. Ça provenait d'une autre entité. Je sais pertinemment qu'il y a des liens entre des associations d'étudiants chinois et l'ambassade de Chine. Dans les messages, on menaçait de me violer, de me tuer, moi et ma famille. Depuis ce temps, je bénéficie de la protection de la police de Toronto et de la GRC. Et une enquête est en cours.
Ce type d'incident, on l'a observé à maintes reprises dans le passé sur des campus universitaires au Canada et ailleurs dans le monde. Cela fait partie de la stratégie d'influence du gouvernement chinois que nous décrit Michel Junot-Katsuya, ex-directeur de la zone Asie-Pacifique pour le service canadien de renseignement et de sécurité.
On a vu des agents secrets envoyés par la Chine, mais des gens qui ont été recrutés aussi pour devenir des agents d'influence à l'intérieur de toutes les associations chinoises qui ont un lien quelconque avec la Chine. Ils ont toutes été infiltrés par les services de renseignement chinois. Ils sont tous télécommandés à certaines mesures. Et on a eu des preuves très, très tangibles.
Quelques jours seulement après l'incident à l'Université de Toronto, on assiste au même modus operandi, cette fois à l'Université McMaster à Hamilton. Ruki Tourdouche, une militante qui œuvre pour la reconnaissance des droits de la minorité musulmane ouïghour, sévèrement réprimée en Chine, est invitée à donner une conférence.
Only those Chinese students didn't ask any question.
Il n'y avait que quelques étudiants chinois dans la salle et ils étaient silencieux. Ils étaient occupés à enregistrer et à filmer ma conférence. Ça m'a intriguée. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de ma présentation. C'est alors que l'un d'entre eux a protesté en disant que je n'avais pas le droit de prendre la parole à l'université McMaster. Ensuite, il s'est mis à m'injurier. S'est levé, a quitté la salle subitement en me criant le mot qui commence par F.
And then he swore at me.
Le lendemain, c'était clair, en lisant les échanges sur WeChat, que quelqu'un, probablement un diplomate, donnait aux étudiants chinois des instructions, allant même jusqu'à leur demander d'identifier et de trouver mon fils.
Le gouvernement chinois n'hésite donc pas à intervenir au sein du milieu éducatif canadien pour faire passer ses messages politiques. L'un de ses outils privilégiés également à cet effet, c'est l'Institut Confucius. On compte plus de 500 de ces écoles de langue chinoise dans 146 pays à travers le monde, y compris au Canada. Le gouvernement chinois y a investi plus de 2 milliards de dollars depuis une dizaine d'années pour des raisons stratégiques très précises, comme l'explique le spécialiste du renseignement canadien, Michel Junot-Katsuya.
La fonction première qu'on affiche, évidemment, c'est de vouloir partager la culture et la langue chinoise. Pour ce faire, on va se rendre très, très, très séduisant. On va offrir les professeurs à nos frais, on va offrir des livres à nos frais, on va offrir des voyages à nos frais, etc. Mais les gens qui vont aller y travailler ont des fonctions bien précises. À plusieurs endroits où il y a des universités qui se sont aperçues que Les professeurs allaient beaucoup plus loin que simplement enseigner la culture et la langue. Il y avait des choses qui ne pouvaient être enseignées, les fameux 5 poisons, donc le Tibet, Taïwan, etc. Au bout de la ligne, ce que l'on cherche, c'est définitivement d'influencer la pensée des gens.
Au Nouveau-Brunswick, en vertu d'une entente avec le gouvernement provincial, les instituts Confucius opèrent au sein de 28 écoles secondaires. Cependant, le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, a annoncé récemment qu'il mettait fin à cet accord dès le mois de juin, car selon lui, les valeurs qui y sont véhiculées sont antidémocratiques. Les enseignants des instituts Confucius sont recrutés et formés en Chine et doivent se conformer à un code de conduite très strict. Sonia Zhao a enseigné à une succursale de l'institut qui se trouvait jusqu'en 2013 à l'université McMaster à Hamilton.
In my contract, it says you have to defend the China's reputation and China's right and their image.
Dans mon contrat d'enseignement, il était spécifié que je devais défendre la réputation et l'image de la Chine dans le monde. Avant d'arriver ici, j'ai eu une formation de 3 mois donnée par des professeurs d'expérience. Ils m'ont enjoint, premièrement, de ne jamais débattre avec mes étudiants du statut de Taïwan ou du Tibet. Deuxièmement, si je me voyais obligée d'en parler, il fallait absolument que je reste fidèle à la ligne officielle du régime. Il nous est en effet strictement interdit de donner notre opinion sur quelque sujet que ce soit. Nous sommes considérés comme des représentants du gouvernement chinois. Je pense qu'on peut parler ici de propagande. Pour moi, les valeurs sont universelles, que ce soit en Chine, au Canada ou ailleurs. Dans cette perspective, l'Université McMaster avait une responsabilité à assumer. Elle hébergeait cette institution sur son campus et acceptait l'enseignement qui était dispensé, de même que les accros à la liberté académique qui étaient commis.
So I think this should be a concern at the very beginning when they decide to cooperate with them.
À la suite de cette affaire, l'Université McMaster a décidé en 2013 de rompre ses liens avec l'Institut Confucius. Plusieurs autres grands établissements à travers le monde, tels que l'Université de Stockholm, de Lyon et de Chicago, ont fait de même ces dernières années. Malgré la controverse, certaines de ces institutions poursuivent leurs activités au Canada. C'est le cas du Collège Dawson à Montréal, qui est associé à l'Institut Confucius depuis 2007. Le gouvernement chinois lui verse à ce titre environ un quart de million de dollars par année. Assis à son bureau où trônent plusieurs objets d'art chinois, le directeur du collège, Richard Filion, dit n'avoir jamais eu vent de cas de censure à l'Institut qui, souligne-t-il, est d'abord et avant tout une école de langue. Mais il admet que les autorités chinoises répondent à un système de valeurs différent du nôtre.
Pour le chinois, le collectif prime sur l'individuel. C'est l'inverse en Occident. Et peut-on estimer que la prétention que les droits de l'homme, les droits humains, tels qu'on les a proclamés en 1949, après la Deuxième Grande Guerre, sont considérés comme étant universels? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'impérialisme, d'une certaine manière?
Mais est-ce que pour le directeur Richard Filion, un établissement d'enseignement comme le sien, qui héberge un institut Confucius, ne se trouve pas à légitimer de facto les valeurs qu'il véhicule?
La Chine va prendre de plus en plus d'espace dans les prochaines décennies, hein? Alors, quelle attitude on doit prendre devant ça? Une attitude belliqueuse? Une attitude de confrontation et de refus, ou plutôt une attitude d'ouverture prudente, critique, lucide, qui nous permet de continuer à communiquer et d'échanger avec la Chine.
Enquête, investigation journalistique. Les renseignements chinois qui infiltrent les centres culturels pour asseoir une position politique. Signature, Franck Dessauer de Radio-Canada.
C'est intéressant dans ce témoignage donc du directeur de ce qui est probablement le plus important collège, hein, un collège anglophone au Québec, le Collège Dawson, c'est cette attitude de relativisme culturel, si je peux dire, hein. C'est-à-dire que de remettre en question le caractère important ou absolu des droits de la personne. On sent qu'il y a là une influence qui a été exercée sur lui par les autorités chinoises qui subventionnent de façon très importante
1930, hein, justement, la mise sur place, la mise en, sur pied de ces instituts Confucius dans un certain nombre de collèges, notamment dans celui-là. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est très significatif d'un état d'esprit qui, je pense, est encore minoritaire, mais qui est néanmoins significatif. Toronto, c'est une ville où la majorité de la population est née en dehors du Canada, et la communauté chinoise représente certainement la plus importante communauté, justement, d'immigration dans cette région-là. Elle est importante aussi, mais dans une moindre mesure, à Montréal, et c'est une communauté qui est très très bien organisée et qui possède aussi le soutien du gouvernement chinois dans un certain nombre de ses activités. On pense effectivement qu'il y a un téléguidage jusqu'à un certain point des autorités consulaires chinoises pour faire pression sur des citoyens pour faire passer des messages.
Et voici venu le temps de l'angoisse. Le temps de choisir. Choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est choisir. Qu'importe, c'est l'heure de voter. Un jury d'une centaine d'auditeurs déjà constitués, qui doit donc afficher ses préférences. Je le rappelle, chaque juré indique son choix numéro 1. Par exemple, Géraldine Allot pour Radio France. Mais ce n'est ici qu'un exemple, bien entendu. Puis deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Il est important de faire le classement complet et de le classer en se référant au groupe. C'est-à-dire que le reportage ne doit pas porter le nom du journaliste, mais du groupe RTBF, RTS, RFI, Radio France, Radio-Canada. Le vote doit intervenir avant dimanche 8 décembre midi, en dehors du jury, auditeur occasionnel. Vous pouvez aussi indiquer vos coups de cœur sur les réseaux sociaux avec le hashtag PrixMFP. En dehors de l'aspect ludique d'un prix, d'une compétition, même si le terme est un peu fort, c'est rendez-vous sont surtout l'occasion de rappeler à quel point le reportage est un outil majeur du journalisme. Que le reportage n'est pas seulement une illustration ou une ambiance, mais qu'il porte en lui l'esprit d'analyse et de compréhension du terrain, qu'il respecte les nuances et la complexité des situations. Le reportage se précarise aujourd'hui, il est important que les rédactions puissent toujours disposer d'une marge de manœuvre pour permettre aux reporters de travailler dans des conditions optimales. Conditions optimales, ce n'est pas un hôtel 4 étoiles, c'est disposer d'un temps long ou de moyens pour arpenter le terrain quand les situations urgente et moins urgente l'exige. Et le reportage n'est pas forcément à l'autre bout du monde, mais aussi en bas de chez soi. Le reportage, c'est en premier lieu une écoute à tous les sens du terme. Le reportage, c'est la vie. C'est beau, non ? Mais tellement vrai. À l'année prochaine !